France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France, Franck Boisy, journaliste au service économie de Libération, et François Sionneau, rédacteur en chef au Nouvel Obs. Alors, le projet de loi ne mentionne pas le mot euthanasie, parce que, nous dit-on, l'euthanasie, c'est donner la mort à quelqu'un avec ou sans son consentement. Et dans ce cas, ici, le consentement est central. C'est en tout cas comme ça que le projet de loi sur l'introduction de l'aide à mourir a été présenté en Conseil des ministres. Il prévoit que les Français atteints d'une maladie incurable et douloureuse qui entraînera le décès d'ici à 6 mois. On s'interrogera sur le diagnostic à court ou moyen terme, ça fait partie des questions. La possibilité donc de se donner soi-même la mort, ou si le patient en est incapable physiquement, qu'un soignant ou un proche lui administre le produit létal. Je vais saluer Isabelle Marin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes médecin en soins palliatifs, longtemps en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui en Bourgogne. Vous êtes aussi philosophe de formation. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment « Allez donc mourir ailleurs, un médecin, l'hôpital et la mort », publié au mois de mars dernier. Votre sentiment général, je comprends que ce projet vous choque, et j'ai envie de vous demander très simplement pourquoi.
Mais ce qui choque, c'est que c'est qu'on voit là actuellement ce qui se passe dans la santé en France, enfin en tout cas dans les endroits où j'ai travaillé, c'est-à-dire les déserts médicaux, la difficulté d'accès aux soins. Ça me semble ça les problèmes essentiels, et se focaliser sur la partie fin de vie sans du tout remettre en cause la façon dont les Français sont soignés actuellement, ça me semble assez choquant. Vous voyez, en Bourgogne, par exemple, on n'a plus de soignants à domicile, on ne peut pas rentrer chez soi parce qu'on n'a pas d'aide-soignante pour vous faire la toilette, et ça me semble ça l'urgence actuellement, de remettre le service public de la santé en état pour qu'on ait tous accès à des soins de qualité.
Avec une répartition notamment géographique qui est inéquitable, c'est aussi ça que vous soulignez.
Alors, la répartition est inéquitable, bien sûr la précarité elle est toujours à l'endroit, mais dans l'ensemble, ça touche maintenant tout le monde, hein, et ça va toucher tout le monde. Il y a une pénurie de soignants partout qui va s'aggraver dans les années prochaines, on le sait, on le voit. Et à côté de ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des problèmes pour soigner les gens, et on leur propose par contre de mourir facilement. C'est un peu choquant.
Si on essaie de rentrer dans le, si vous voulez bien, dans ce qui est envisagé pour essayer d'éclairer nos auditeurs, la clause de conscience, elle existe pour les médecins. Ça, ils pourront toujours l'activer. C'est très clairement dit.
Oui, c'est clairement dit, mais après ça va faire dans les équipes forcément des choses très difficiles. Il n'y a pas de clause de conscience par équipe, alors qu'en fait le travail, en tout cas en soins palliatifs, est toujours par équipe. Dans le projet de loi qui est prévu, la décision est uniquement du médecin. C'est pas forcément simple. C'est pas forcément
simple. Décision du médecin, ça c'est quelque chose que vous validez ou pas?
Non, je vois pas pourquoi le médecin pourrait valider le fait que la souffrance, par exemple, est inapaisable, parce que ça veut dire qu'on baisse les bras, alors que notre travail en soins palliatifs, c'est justement de toujours essayer d'apaiser, de soulager, d'essayer de trouver toujours quelque chose. Donc dire que c'est inapaisable, c'est dire quoi? C'est dire qu'on va arrêter? C'est contraire, en tout cas, à l'éthique des soins palliatifs, qui est de toujours pouvoir faire quelque chose, essayer de dire quelque chose. Pas forcément les médecins, d'ailleurs. Ça peut être les aides-soignantes, ça peut être les proches, ça peut être tout à fait autre chose. Donc, dire qu'il y a une décision pour dire, d'une part, le pronostic, qui est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué en médecine. Ensuite, que la souffrance est inapaisable. Après, savoir quelles souffrances sont justiciables de donner la mort ou pas donner la mort. D'une certaine façon, c'est penser que le suicide est accepté, quoi. Mmh.
Même si le gouvernement n'emploie pas le mot à ce stade, en tout cas d'un texte qui pourra évoluer. Franck Boisy.
Je trouve que ce qui est très révélateur dans le témoignage d'Isabelle Marin, c'est qu'on sent face à ce texte de loi une réelle opposition des soignants, que ce soit les infirmiers, les médecins. Ils ont l'air dans un désaccord assez profond avec ce texte. Et en même temps, les familles disent comptez peut-être pas sur nous non plus pour administrer les choses. Donc finalement, ce texte arrive, mais il semble extrêmement clivant.
Stéphane Vernet, on sent effectivement ce décalage entre une opinion en France qui réclame plutôt, un encadrement d'une aide à mourir, et puis effectivement le personnel médical qui dit « mais nous on est là pour soigner, pas pour donner la mort ».
Oui, mais pourquoi ? Les soins palliatifs en France, ils existent depuis 30 ans, ils se sont considérablement développés et ça marche, c'est-à-dire qu'on sait prendre en charge la douleur sous différentes formes, avec différents moyens, etc. Ce qui a été très bien dit par Isabelle Marat, si vous voulez, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un pays qui est un désert médical. Alors, à part la Côte d'Azur, je veux dire, toute la France est un désert médical. Et la problématique de la prise en charge des malades en fin de vie, c'est que vous avez, à l'heure actuelle, il y a 21, je crois, 20 ou 21 départements dans lesquels il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et donc, vous avez des endroits où les gens sont dans une situation de profonde inégalité face à la mort. C'est-à-dire que les spécialistes des soins palliatifs, les médecins qui suivent les personnes en fin de vie, ils vous disent quoi ? Ils vous disent que vous avez des gens qui expriment le désir de mourir, parce qu'ils savent qu'ils sont à la fin, qu'ils sont condamnés, ils souffrent, etc. À partir du moment où on leur dit qu'il y a un moyen de prendre en charge, ils sont entendus, ils sont écoutés, ils sont entendus, qu'il y a un moyen de prendre en charge leur douleur, de les accompagner, la plupart de ces demandes tombent, disparaissent. Si aujourd'hui vous créez un système dans lequel il y a une aide à mourir qui est mise en place, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans les endroits où il n'y a pas de professionnels, pas de services, pas d'accompagnement possible ? C'est-à-dire que les malades qui seront en fin de vie, etc., qui viennent avec une demande en disant « moi je veux en finir », là où il y a des professionnels des soins palliatifs qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous accompagner, qui ont des solutions pour maîtriser la douleur, qui vous donnent une perspective et qui vous permettent de gagner du temps pour régler vos affaires avec vos proches, etc., et profiter en fait et aménager votre fin de vie, vous allez pouvoir reculer l'échéance. Et là où il n'y a pas de solution et pas d'accompagnement, vous pouvez avoir des gens qui décident effectivement qui s'orientent vers cette forme de suicide assisté. Et ça crée une profonde inégalité face à la mort. Et je pense que c'est au cœur du sujet. Donc ce projet de loi, il a deux volets. Il y a aussi le développement des soins d'accompagnement. On a une annonce de 1,1 milliard sur 10 ans pour développer les soins d'accompagnement qu'on appelait autrefois avant.
C'est des moyens insuffisants sur cette partie-là. Mais qui
non, mais 1,1 milliard sur 10 ans,
qui ne devrait pas fausser le débat sur l'autre partie.
Je veux dire, les deux sont intimement liés pour la raison que je viens de vous expliquer. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait... 1,1 milliard, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez par rapport au mur du grand âge, par rapport aux problèmes de dépendance, par rapport à ce qui nous attend. Moi, je pense que 1,1 milliard sur 10 ans, c'est pas assez.
Isabelle Marin, juste pour conclure avec vous et on vous libérera, mais quand Stéphane Vernet dit la demande d'aide à mourir tomberait s'il y avait partout, ou en tout cas en partie, des moyens d'accompagnement, c'est une expérience que vous avez effectivement sur le terrain de ça?
Alors, d'abord, oui, c'est une expérience. En plus, moi, j'ai travaillé pendant 30 ans en Seine-Saint-Denis, comme vous l'avez dit, et dans ce département, il n'y a pas de demande. J'en ai pas entendu. C'est-à-dire que les gens ont des vies très difficiles, mais ils y tiennent, et en tout cas, ils n'ont pas de demande du tout de mourir avant.
Jamais.
Alors, ça existe. Moi, j'en ai pas vu, je vous dis. Alors, ça existe, je sais, mais c'est toujours des cas relativement exceptionnels. Tous les cas qu'on montre sont des cas relativement exceptionnels. Quand on peut voir les gens qui partent en Suisse ou en Belgique, c'est 40 ou 50 personnes, c'est des très très petits chiffres, enfin des choses vraiment exceptionnelles et rares. Et par contre, la difficulté qu'on vient d'annoncer de soins et de soins palliatifs, elle est par contre généralisée. Et je voudrais insister sur le fait que le milliard, c'est pour les soins palliatifs, mais on ne parle pas des soins tour, parce que les soins palliatifs sont là pour renforcer des soins, mais il faut des gens pour s'occuper des patients, que ce soit à domicile, dans les EHPAD, il faut des aides-soignants, des auxiliaires de vie, et c'est ça qui manque actuellement, et ça manque de façon cruelle. Et on a une médecine qui est centrée sur la technique et sur sur les médicaments, et vous pouvez être opéré d'une intervention lourde partout en France, mais vous ne pouvez pas être lavé partout en France. Et c'est ce paradoxe-là qui est grave.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Stéphane Vernet, Ouest France, François Sionneux du Nouvel Obs, Franck Boisise de Libération et le médecin Isabelle Marin, spécialiste des soins intensifs. François Sionneux, vous vouliez réagir sur ce qui était dit, on parlait des soins palliatifs, du manque de moyens et puis évidemment de cette aide à mourir.
Et du tempo qui est choisi pour annoncer aussi cette... Tout d'abord, dimanche dernier, la présentation par la ministre Catherine Vautrin des soins palliatifs. Donc quelques jours avant, on voit bien le fonctionnement politique et qui s'agit de déminer un petit peu le projet sur l'aide à mourir en venant parler des soins palliatifs. Mais je rejoins Stéphane sur le caractère à la fois finalement restreint, puisque en effet 1,1 milliard sur 10 ans, c'est peu par rapport au développement nécessaire, et ça on le voit dans le nombre de lits accordés, etc. Et puis finalement au caractère assez tardif de l'annonce. Enfin, on peut comprendre la corrélation entre les deux textes, mais on peut aussi s'étonner de la nécessité d'avoir tant tardé à s'occuper du développement des soins palliatifs en France, dont on sait qu'ils sont parfois pas assez connus, pas assez développés et en effet pas assez, entre guillemets...
Par manque de moyens.
Par manque de moyens utilisés. Voilà, c'est aussi... Alors, c'est tout l'aspect un peu en même temps de jouer et soins palliatifs et aide à mourir, mais je ne suis pas sûr de la bonne jonction des deux parties et surtout du caractère très tardif du développement des soins palliatifs.
Moi je repense quand même au témoignage d'un médecin belge que nous avions ici dans Les Informés il y a quelques semaines, quand on parlait de ce sujet, qui disait, lui, recevoir quand même un certain nombre de demandes de patients français qui souhaitaient une aide à mourir. C'est pas des nombres énormes, mais que cette possibilité là puisse exister en parallèle d'un renforcement, et on l'a bien compris, des soins palliatifs, est-ce que c'est pas quand même une piste intéressante?
Mais Bérangère, je pense qu'il faut pas que l'arbre cache la forêt, qu'il y ait des demandes individuelles de fin de vie. Elles sont audibles et il doit y avoir une réponse qui ne repose pas d'ailleurs que sur les épaules du corps médical, comme il l'a bien fait sentir. Mais derrière tout ça, ce qu'on a vu autour de cette table ce soir, c'est que avant cette issue-là, on a un vrai problème de soins palliatifs, c'est-à-dire de prise en charge, de l'accompagnement de la fin de vie, qui n'est pas sans nous rappeler finalement le débat qu'on a sur la dépendance. C'est-à-dire que finalement, dans ce pays, tant qu'on est en pleine possession de ses moyens, on a un système de santé qui, quoi qu'on en dise, fonctionne plutôt bien. Et à partir du moment où il y a une dégradation de l'autonomie, ça se complique. Et certains avaient proposé, je pense à juste titre, ce qu'on appelle le financement d'un cinquième risque, c'est-à-dire que la dépendance soit reconnue comme un risque au même titre que la maladie ou l'accident du travail, et que sur les fiches de paye ou sur les revenus de chacun, il y ait une cotisation qui soit assise pour financer cette dépendance qui ne manquera pas de se développer avec l'allongement de la durée de vie. Et là-dessus... Aujourd'hui, on est dans une impasse, mais je pense que nombre de Français seraient prêts à avoir aujourd'hui, pour les salariés sur leur fiche de paye, une ligne supplémentaire de prélèvement, pas très importante, mais destinée en tout cas à financer une dépendance et une fin de vie plus humaine et plus confortable, si je peux employer cette expression, que ce qu'il en est aujourd'hui.
Un mot peut-être de conclusion, Isabelle Marin, sur ces demandes sur cette équité. C'est difficile, les mots sont toujours compliqués sur ce sujet-là, mais parce que finalement, ceux qui vont en Belgique ou en Suisse sont aussi ceux qui ont peut-être les moyens d'accéder à cette possibilité-là. Et c'est aussi une façon de rendre ça possible pour tous, de le légaliser ici en France.
C'est justement ce que vous êtes en train de dire. En fait, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit toujours la norme. Elle dit toujours ce qui est fait pour l'ensemble. Or, on est en train de parler de situations exceptionnelles. Mm-hmm. Les situations exceptionnelles, ce n'est pas dans la loi, c'est dans la jurisprudence. On sait bien. Et pourquoi faut-il faire une loi qui montre une norme ? Mais là, on montre une norme. C'est-à-dire qu'on dit que, d'une certaine façon, quand on devient dépendant, quand on devient souffrant, quand on devient en fin de vie, eh bien, la société accepte qu'on meure sans rien en faire de plus. Nous, en soins palliatifs, on n'accepte pas ça. On pense qu'il faut qu'on accompagne les gens qui sont malades, souffrants, handicapés, vieux, et qu'il faut qu'on soit solidaire avec eux et qu'on n'a pas à leur montrer qu'après tout, la porte de sortie est là et qu'ils pourraient débarrasser la société de leur poids. Parce qu'en fait, c'est ça dont il est question. Il est question de toutes ces personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses et la société qui ne peut pas gérer au niveau financier, au niveau des soins. Et on leur propose actuellement une voie de sortie et la loi leur donne la norme. Alors que la norme actuellement, c'est de dire qu'on va s'occuper d'eux. Et maintenant, on va leur dire, ben oui, mais enfin, on ne va peut-être pas pouvoir, mais de toute façon, vous aurez une porte de sortie.
Merci beaucoup Isabelle Marin, je rappelle ce livre même s'il date un peu de 2004 je crois. Allez donc mourir ailleurs, la médecine, l'hôpital et la mort. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans les informés. Un mot pour conclure, Françoise, vous disiez vous cinquième risque effectivement. Et ça,
C'est-à-dire qu'on va voir, moi je pense que la question qu'on peut se poser maintenant c'est ce texte va être voté. Et une fois qu'il sera voté, il sera intéressant
du temps,
d'avoir.
Ça peut prendre 2 ans. Il y a tout un dispositif, une commission spéciale qui est 71 députés, présidée par Agnès Firmin-Lebaudeau.
Mais au bout du compte, on aura une évaluation à un moment donné. Et il sera intéressant de voir, d'abord, de quelle manière le corps médical a accepté d'accompagner ce texte, et d'autre part, le nombre précis de personnes qui auront eu recours.
Pour voir si ça crée un appel d'air ou pas. Oui, et puis mais je vous rappelle quand même que dans le cadre des soins palliatifs, depuis la loi Claeys-Leonetti, il y a la possibilité aussi d'avoir une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, l'aide à mourir, elle existe déjà dans le système actuel de soins palliatifs. Pas sous la même forme, mais là, ce qu'on propose peut aussi créer une espèce d'appel d'air. Donc, d'où l'importance, effectivement, de revoir assez rapidement si ça crée pas un mouvement. Alors qu'on l'a bien entendu, les demandes, elles sont marginales aujourd'hui en termes de demandes à mourir.
Bon, mais en tout cas, le point de vue était intéressant. Il est singulièrement différent de ce qu'on avait encore une fois entendu il y a quelques semaines et ce qu'on entend des gens qui pratiquent dans d'autres pays, mais... C'est intéressant de les entendre, François Sionneau.
On voit une chose malgré tout, c'est que Emmanuel Macron prend son temps sur ce sujet-là. Il le fait avec entre guillemets la main qui tremble. Après avoir fait une convention citoyenne sur le sujet qui a été relativement saluée qualité de ses échanges, etc. C'est la grande réforme sociétale de son deuxième quinquennat, peut-être même la grande réforme sociétale en général. Il a peur d'une chose, c'est un effet qu'il a connu quand il était ministre conseiller à l'Élysée sous François Hollande, c'était le mariage pour tous et certainement, à mon avis, aucune envie de revoir des effets délétères d'un point de vue sociétal dus à une loi de ce type-là.